Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Tati Mampoukou. Okapi.
Chers auditrices de Radio Okapi, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Viol collectif des femmes détenues au pavillon 9 de Makala. Comment réparer ces préjudices? Nous en parlons avec nos deux invités. Jean-Claude Katende, il est président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme. Il intervient au téléphone. Bonjour, Monsieur Jean-Claude Katende. Voilà, notre deuxième invité, il est ici au studio, il s'appelle Emmanuel Adoukolé, il est président national de la Fondation Bill Clinton. Bonjour, monsieur Emmanuel Collé.
Bonjour.
Bienvenue dans Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos questions, commentaires et suggestions au même numéro. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires de Joseph Botei. Cet internaute nous dit ceci. L'État congolais doit tout faire pour délocaliser la prison centrale de Makala dans la commune de Selembaou et construire également une autre prison réservée uniquement aux femmes. Nous entendons aussi vos commentaires dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mampoukou vous présente et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Julie Fesar-Bongunda réalise cette émission et Billy Landry Betou est à la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Les viols des femmes détenues à la prison centrale de Makala survenus dans la nuit du 2 septembre courant ont suscité des vagues d'indignation à l'échelle nationale. Les ONG de défense et des droits de l'homme dénoncent l'inaction des autorités contre ces viols de masse des femmes détenues à Makala. Après les viols des femmes à la prison de la Kasapa en 2020 et en 2022, les autorités de tutelle n'ont pas pris des dispositions pour éviter ces incidents dans les maisons carcérales de la RDC. Comment réparer ces préjudices, qu'est-ce qui doit être fait en urgence en faveur de ces victimes des viols au niveau de la prison centrale de Makala? Nous en parlons dans cette première partie de ce magazine Okapi Service. Monsieur Emmanuel Adoukolé, dites-nous quelles sont les remontées, en fait, les derniers monitoring faits au niveau de la prison centrale de Makala concernant cet incident qui s'est passé le 2 septembre dernier.
Bon, écoutez, c'est un incident très malheureux et nous tous nous déplorons. Mais cette problème se devait être invité si l'autorité avait pris les choses à main, parce que les ONG des droits de l'homme avaient fait le rapport à la présidence, partout, au ministre, seulement pas le ministre Rose Mutombo, mais à l'époque de Anessa Tawamba, que nous avons commencé à faire les plaidoiries compte tenu les sous-populations en carcérale. Mais ça n'était pas donné les résultats escomptés. Et jusqu'à nous avons arrivé le 17 mai, à laquelle les prisons étaient aussi attaquées, la même chose. Là, les femmes n'étaient pas violées. Bon, il y avait même un ancien secrétaire particulier de Laurent Désiré Kabila, Nelly Twint, qui aussi avait eu les chances pour fuir par Brazzaville aujourd'hui et là ensuite. Donc, À cette époque aussi, lorsque l'État congolais parlait de 10 personnes qui voulaient tenter pour fuir, mais c'était maîtrisé, mais alors qu'il y avait plus de 4000 personnes qui étaient évadées, sans compter les dégâts matériels et les décès. Il y avait même à l'époque beaucoup de combattants des DPS. Tantôt on dit c'était le Kamina Sampo, tantôt on dit des gens de Monassemi. Donc jusqu'à aujourd'hui, l'enquête n'a pas abouti. Voilà, aujourd'hui on vient de subir le même scénario. Et c'est un scénario parce que, comme vous savez, nous qui nous avons détenu ou bien fréquenté les prisons centrales de Makala, il est vraiment très difficile pour une personne qui est à l'extérieur peut être cassée la porte. Ça peut être possible si on fait un trou, mais si ce n'est pas le cas, il est possible. Il y a une complicité à l'extérieur. Mais aussi, parler des problèmes de la femme, selon avant les deux, il y avait 305 femmes, mais c'est permis, il y a beaucoup qui refusent.
Mais la version officielle fait allusion à 129 femmes et non 305, tel que vous le dites, monsieur Manuel.
Bon, nous sommes basés sur la chiffre, de la prison, voilà, bon. Donc, nous sommes basés sur la chiffre de prison parce qu'il y a comment la grève n'était pas totalement brûlée, donc il y a la chiffre. C'est comme par exemple moi j'étais en prison le 29 août. Le 29 août il y avait exact 14 390, mais après on a dit il y avait aussi certains déjà qui étaient venus acheter. C'est pour cela qu'on parle qu'il y avait 15 005 avant le dimanche. Donc pour le nombre c'était 305, ça on peut vérifier. Maintenant pour la femme qui est violée, il y a beaucoup, selon l'information, aucune femme qui était épanouie, mais il y a certaines femmes par dignité ils refusent
de se prononcer.
Nous avons eu l'information qu'il y a 4 femmes qui sont en santé par le sang. Et nous avons fait l'arrêt. Le directeur médecin de prison centrale de Makala, il m'a promis qu'il va suivre le dossier. J'étais avec lui hier au téléphone. Il dit qu'il va suivre le dossier. J'ai transmis les noms des femmes, 4 femmes là qui sont en santé au niveau de prison. Donc, nous continuons à faire le plaidoyer pour que l'État prenne le soin de cette femme. Nous avons même une femme là qui a été arrêtée depuis 22. Son nom c'est Esther Nango. Esther Nango a été arrêtée par le problème d'escroquerie depuis 2022 par le parquet de Limba. Jusqu'à aujourd'hui, cette femme n'est pas jugée. Et elle est toujours permis, la femme qui était violée. Donc, pour vous dire que les responsabilités, comme un État congolais qui n'a pas pris l'application aussi avec l'enquête judiciaire administrative.
Nous avons également dans ces rendez-vous Monsieur Jean-Claude Katende. Il est président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO en sigle. Monsieur Jean-Claude Katende, AZADO suit également de près cet événement, cet incident qui s'est passé au niveau de la prison centrale de Makala au pavillon 9, où les femmes ont été victimes de viols lors des tentatives d'évasion des détenus à la CPRK. Dites-nous, est-ce que vous suivez également cet incident, cet événement-là?
Effectivement, l'AZADO comme la fondation Bill Clinton, je salue mon ami Emmanuel qui est au studio là-bas. Nous suivons effectivement la situation parce que depuis bien longtemps, l'AZADO suit ce qui se passe en prison. Et nous avons toujours documenté les incidents qui surviennent à la prison, mais aussi les conditions dans lesquelles les prisonniers sont détenus. Et l'un de nos rapports avait parlé à l'époque des prisons congolaises qui sont un mouroir. Quand on vous envoie en prison, c'est presque à la mort où on vous envoie. Effectivement, l'incident qui est arrivé il y a quelques semaines nous a beaucoup préoccupés, mais nous pensons que toutes ces choses étaient prévisibles Et il faut regretter ici le fait que les autorités de la prison, mais aussi le ministère de la Justice ainsi que d'autres autorités, n'aient pas pris des mesures conséquentes pour non seulement assurer la sécurité de la prison, mais aussi et particulièrement la sécurité des femmes qui ont été exposées. Vous savez que dans les premières heures de cet événement, les autorités avaient pris des mesures pour que personne n'accède à la prison pour mener des enquêtes conséquentes. Mais selon les informations recueillies par la ZADO, il y a plusieurs femmes qui ont été violées. Plusieurs femmes qui ont été violées par en fait les prisonniers, d'autres prisonniers. Voyez-vous? Mais ces événements étaient prévisibles. Quand vous voyez une prison dont la capacité normale est de 1500 individus et que vous en avez plus de 14 000 dans un petit endroit, il est clair que des événements pareils devraient être envisagés. La perception de la ZADO est que même les autorités, les responsables de la prison, comme les autres services de sécurité qui sont régulièrement là-bas, dont l'ANR, ne font pas correctement leur travail dans le sens que ils auraient pu sentir l'odeur de ce qui s'est passé pour signaler aux autorités afin qu'ils prennent des mesures conséquentes. Ça, c'est la première faille. Ces services, quand vous allez à la prison, elles sont là seulement pour racketter les personnes qui viennent visiter leurs frères et sœurs là-bas et racketter les prisonniers. Ils sont plus préoccupés par l'argent que par
le travail.
La nature, l'aspect des individus qui entrent dans la prison. Donc, même si tu viens pour faire un cours à la prison, tant que tu as l'argent, on va te laisser entrer. Tu peux même dormir là-bas. Tu peux même dormir là-bas parce que nous savons qu'il y a des prisonniers qui importent les femmes de l'extérieur à la prison. Nous le savons bien. Et donc, il y a cette faille. La deuxième faille des autorités. Aujourd'hui, on ne prouve pas de manière claire que les mesures ont été prises pour que ces femmes qui ont été violées. Parce que quand une femme est violée, la première préoccupation, ce n'est pas celle d'organiser un procès. C'est d'abord de s'assurer que sa santé est sécurisée. Mmh. Et là, vous savez bien que moi, qu'en matière de transmission du VIH-SIDA, il faut que les interventions soient organisées 72 heures avant 72 heures.
Oui, dans les 48 heures en principe, dans les 48 heures qui suivent l'incident.
Non, dans les 72 heures de l'incident. Donc, il est important qu'on sache si cela a été fait. Si cela n'a pas été fait, il faut qu'on attende la période de 3 mois pour refaire les examens à ces femmes-là pour voir si effectivement elles ont été contaminées ou pas. Et si elles ont été contaminées à la suite de cet incident, il faut que l'État les prenne en charge pour toute la vie en ce qui concerne les antirétroviraux. C'est une situation extrêmement grave. Mais quand vous voyez la manière dont elle est traitée, et je me demande même si beaucoup de nos autorités connaissent quelle est la thérapie qu'il faut appliquer dans le cas où une femme est violée.
Nous vous gardons en ligne, Monsieur Jean-Claude Katende. Nous rappelons que vous êtes président de la ZADO. Monsieur Emmanuel, au cours de cet incident des viols massifs des femmes au pavillon 9 de la prison centrale de Makala, est-ce qu'il y a eu aussi des femmes qui sont décédées à la suite de cet incident? Et est-ce que on a accordé les premiers soins aux femmes victimes de viols au niveau de la CPRK?
Oui, effectivement, il y avait 4 femmes qui étaient décédées au niveau du pavillon 9. Il y avait des femmes qui étaient eu la balle réelle pour soit des autres tentatives d'évader. Et il y avait des femmes qui sont mortes par l'abus sexuel. Et nous vous disons que il y a certaines femmes, 20 femmes au total, qui ont amené de l'aise. Cette femme, ils sont là, ça fait 2 ans jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont pas jugés. Il y a 6, c'était 26, il y a 6 qui sont décédés. Et les autres qui étaient restés, après l'incident, on amène dans un endroit inconnu, non prévu par la loi. Alors que on ne peut pas prendre un prisonnier et on amène dans un endroit qui n'est pas prévu par la loi. Nous, on croyait qu'ils ont été en dolo, mais après notre vérification, ils sont pas en dolo. Je sais qu'ils sont dans un endroit là, à laquelle les gens là, ils sont maintenant les intenus et des prisonniers. Et on ne comprend rien. Si on doit les deux prisons de Kinshasa, il y a aussi une autre prison qui est reconnue par l'État congolais. Nous ne connaissons pas, mais ça existe. Qui des gens là, ils sont dans un cachot clandestin à laquelle qui n'est pas prévu par la loi. Et comment on va faire une enquête de bon forme alors que des gens qui peuvent fournir l'information, on amène d'un endroit qui n'est pas prévu par la loi, et cela va dire qu'on est en train de faire effacer les vérités. Et donc, en tout cas, il y a aussi les gouvernantes des pavillons,
dites-moi, monsieur Emmanuel, ben est-ce que ces femmes victimes de viol ont bénéficié des premiers soins et d'une assistance psychologique?
Bon, selon l'information, il y avait les premiers médecins sans frontières qui avaient amené les médicaments antibiotiques et les autres médicaments. Mmh. Et selon le docteur que j'ai parlé avec lui hier, le docteur me dit que non, écoutez, nous sommes en train de faire les essais. Mais j'ai dit, mais docteur, est-ce que des gens là sont faits comme Maître Jean-Claude vient de dire? Mmh. Est-ce que des gens là sont faits l'examen pour déterminer? Il dit non, bon, écoutez, le premier, il faut d'abord l'antibiotique, après le reste, c'est après. Mais comment vous voyez-vous que des gens prennent l'antibiotique? Qu'est-ce qui prouve que l'antibiotique, s'il y a une infraction, ça peut éliminer l'infraction? Donc, comme Maître Jean-Claude vient de dire, il faut absolument des gens là être envoyés dans un hôpital spécialisé pour faire l'examen. Comme les dates de 72 qui est dépassée, il faut maintenant attendre 3 mois pour faire l'examen s'ils sont contaminés par HIV, SIDA ou pas. Mais ce qui est vrai, il y a Madame Honorable Christian Banga qui nous avons contacté. Il aussi m'a promis qu'il va aussi contribuer. Il y a mon collègue Maître Chalin Yanganzou aussi, il a une association familiale. Et aussi, sont dit, il va vraiment contribuer. Donc, tous les ONG, cette ONG que nous avons contacté, ils sont en train de briscurer, de faire quelque chose parce qu'on ne peut pas attendre seulement le gouvernement. Nous connaissons que le gouvernement ne dispose pas les moyens adéquats. Donc, il faut nous appeler SOS, pour même les ambassades, hein, parce qu'il y a certaines ambassades qui sont à bonne volonté d'intervenir. Nous avons aussi contacté certaines ambassades qui peuvent faire quelque chose. Et les ONG comme Monisco aussi a promis, au départ, avec le secrétaire adjoint de Monisco aussi, a promis que Monisco va faire quelque chose. Nous attendons pour que cette action soit faite rapidement parce que la situation est grave.
Nous allons cette fois-ci donner la parole aux auditeurs qui sont déjà au standard et puis nous allons revenir aussi au studio. Viol collectif des femmes détenues au pavillon 9 de Makala. L'incident s'est passé le 2 septembre dernier. Comment réparer ces préjudices? Nous en parlons dans cette première partie de ces rendez-vous d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous. Nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal Plus au canal 572 pour Radio Okapi. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Les deux premiers intervenants nous appellent depuis la ville de Lubumbashi. Nous allons commencer par Ismaël. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Tati Mapoku, bonjour à Papa Amadou Kolé.
On vous donne la parole.
Merci beaucoup. En train de gérer, merci pour cette thématique. Mais juste une question de savoir à Papa Kolé. Qu'est-ce qui peut nous rassurer que réellement les femmes ont été violées? Quelle sera la conséquence de tous ceux qui seront définis comme l'auteur du viol dans la prison de Makala? C'est ça la première préoccupation.
Oui, mais Ismaël, s'il vous plaît, vous remettez en question l'information selon laquelle les femmes ont été victimes de viol au cours de cet incident?
Je suis au courant, je suis à la radio Okapi, je suis à la RFI, je suis à la page à chaque minute, à chaque seconde.
D'accord.
Mais c'est parfois une inquiétude ou une question de savoir réellement si ces femmes-là étaient violées. Pour terminer cette question, je disais, quelle sera la conséquence de tous ceux qui seront démantelés que ce sont les auteurs des viols? Mais comment les identifier pour savoir qu'ils ont été l'auteur du viol des femmes en prison de Makala? Tenez ce que je vous dis aujourd'hui. Nous avons constaté que dans la plupart des cas, la violence sexuelle ou les solgants de la violence sexuelle est un business bien organisé et par les organismes et par l'État lui-même. Qu'est-ce qui se passe en général? Que ce soit en prison, que ce soit dehors de prison, les gens négocient avec les autres ou avec l'État. Même une femme qui a 2-3 enfants et qui s'est donnée aux relations sexuelles volontairement, sans être forcée par une personne, on peut déguiser cette affaire-là quand on arrive devant les juges, devant la justice, qu'on qualifie cela comme un viol. Maintenant, la question que je pose à Jean-Claude Katende, notre voisin de Lubumbashi, c'est de savoir comment ils peuvent démanteler tout ce qui s'était passé. La responsabilité du viol, parce qu'il y avait la tentative d'évasion, incombe à qui? À ceux qui ont violé ou à l'État? S'il s'agit de l'État, parce qu'on parlerait maintenant de multiples de personnes ou fois 10 le nombre de détenus dans la prison. Mais dans les jours à venir, en tant que lui, il est là en tant que des défenseurs des droits de l'homme national et international. Dans les jours à venir, pour éviter des viols collectifs des femmes dans des prisons, quelle suggestion il doit donner à l'État et dans des prisons? Quelle sera maintenant la mesure pour désengorger ou séparer des femmes et des hommes? Je ne pense pas. Ce qui est comme des doutes, c'est parce que comment une personne qui est en train de fuir la prison, qui cherche à s'évader, il peut se donner le temps de violer? Pas une seule personne, une autre, on compte autant de femmes qui ont été violées. Comment ils peuvent nous expliquer une personne qui cherche à s'évader, mais qui prend encore le temps de violer une femme?
Donc, d'après vous, désolant parce à vous que comprendre, Monsieur Ismaël,
nous au monde.
Oui, Monsieur Ismaël, à vous comprendre, c'est qu'il y a eu peut-être un acte de sabotage au pavillon 9, c'est ça?
Oui, moi je comprends parfois que c'est un jet, comme l'habitude, hein, parce que je n'ai pas jusque-là compris, pas moi seul, beaucoup de personnes, quand on parle, on ne trouve pas réellement la réalité de ces viols. Si une est violée, deux, oui, mais aller au-delà des normes dont ils sont en train de dire, nous ne sommes pas d'accord avec cela, que les ONGD qui défendent les droits de l'homme doivent chercher, mener des enquêtes réelles, que chacun soit rétabli de ses forfaits. À moi, c'est ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Nous rappelons que M. Ismaël intervient depuis la ville de Lubumbashi. Nous restons dans la même ville, cette fois-ci, pour donner la parole à Patrick Odia. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la radio Okapi.
C'est Tati qui est à l'antenne, on vous donne la parole. Allez-y.
Oui, Tati. La question de violence sexuelle effectuée ou réalisée par les uns sur les femmes à la prison de Makala, cette question relève les débats sur la politique générale de l'État, mais aussi la faillite et la puissance que doit avoir également l'État dans sa définition. Vous savez, nous avons étudié que l'un des attributs de l'État, c'est la puissance, et cette puissance lui aide à attirer la quiétude, l'ordre public, mais aussi permettre à ce que les autres également puissent préserver leurs droits. Voyez-vous, lorsque la prison a été construite en 1900 quelque pour la capacité de 1500 personnes, et aujourd'hui on vous parle de plus de 12 000, 15 000 personnes, vous pouvez, même sans être juriste, comprendre réellement à qui revient la faute. C'est à l'État congolais. Alors, il se pose un problème, on peut y aller sur le plan pénal et sur le plan civil. Le plan pénal, les individus ayant exercé ces actes prohibés par la loi seront sévèrement sanctionnés par la loi et les codes pénals également congolais. Mais sur la responsabilité, il y a lieu de reconnaître que l'État est démissionnaire de ses missions et de ses rôles qu'il devait jouer également en construisant, par exemple, en construisant dès le départ une prison qui avait une capacité de 1500, le même État permet à ce que la capacité puisse au-delà des...
Dépasser les 100%.
Alors, la responsabilité du commettant, oui, la responsabilité en droit civil, nous appelons la responsabilité du commettant. Qui est le commettant? C'est l'État. Les gens ayant foyé à leur mission, c'est les gens commis par l'État, payés par l'État également. Eh bien, la responsabilité, elle est purement exclusive et dévolue à l'État pour pouvoir préjudicier, j'allais dire payer le préjudice syndical qu'ont subi ces femmes également. Ça, c'est la première analyse qu'on peut également faire. La deuxième analyse, nous avons fait l'émission sur Radio Capi également, je suis dans Parole aux Audiers récemment, avec la conseillère de chef de l'État, Chantal Mouloff. Nous avons proposé qu'il y ait la construction d'une prison pour les femmes et aussi pour les mineurs à part. Ça permettrait à ce que les femmes entre elles, c'est déjà pareil qu'elles ne puissent pas être également. Mais posons-nous la question, est-ce que le gouvernement a-t-il des moyens? On vous dit non, on n'a pas de moyens. Mais on veut dans la diplomatie, l'Union européenne, de construire une prison uniquement pour les femmes, une prison qui coûterait à peu près 300 000 dollars, 500 000 dollars, alors que nous savons qu'il y a des détournements qui se font à ciel ouvert de 500 000, de 500 000. Bref, vous allez comprendre, Tati Mapoukou, que la politique générale de la justice, telle que les confrères, j'allais dire, maître le ministre Moutambala, là, il les connaît très bien, il faut organiser les États généraux. Et en urgence, l'État devait cesser de se plaindre, devait directement entamer les constructions de prisons féminines et de prisons pour enfants également. Ça permettrait à ce que la loi d'une part soit protégée. Je vais y aller par un autre exemple, par exemple. La loi de 2009, portant protection de l'enfant, et évite ou interdit à ce que les enfants soient placés
dans
en détention,
les...
moins encore en prison. En protection de l'enfant, en droit congolais de protection, oui, en droit congolais de protection de l'enfant, nous appelons que les enfants soient placés, on les appelle le placement des enfants. Et cela, c'est un, par recommandation de la loi également, de 2009 également. Mais à ce jour, quand vous allez à Makala, vous allez trouver les enfants. Non, l'État lui-même viole ses propres lois. Et on se demande si l'État lui-même, censé respecter ou faire respecter les lois, lui-même se permet de violer, eh bien, la responsabilité n'est pas à chercher ailleurs, moins encore à qui que ce soit, mais la responsabilité reviendra au Congolais. C'est décidé.
La liaison se détériore avec la ville de Lubumbashi. On a compris les fonds de votre pensée. Merci beaucoup, maître Patrick Odia. Nous rappelons que c'est depuis Lubumbashi que vous intervenez. Les invités auront le temps de répondre à tes préoccupations. Cette fois-ci, on retourne à Kinshasa pour donner la parole à monsieur Yves Mouyaya. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, bonjour la radio Okapi. Je salue les invités. Je remercie pour la parole. En tout cas, je crois que la responsabilité pour le moment, je crois qu'il y a une certaine précipitation pour en parler. Parce que on sait, il est de commis de renommée qu'il y a eu un événement, un incident malheureux qui est intervenu, qui est arrivé à la prison centrale de Matala. Tout le monde sait qu'il y a eu tentative
d'évasion. Oui.
S'il y a eu tentative d'évasion, c'est que l'État congolais lui-même est victime parce que ceux qui ont voulu s'évader ont cassé le mur de la prison. Et donc l'État congolais, dans ce cas-là, peut être aussi considéré comme étant la victime. Bon, maintenant, est-ce que les responsabilités reviendraient à qui? Donc je crois qu'il y a une certaine précipitation dans les chefs de nos ONG que nous facilitons d'ailleurs pour le travail. Et donc, à mon avis, je pense qu'il fallait d'abord attendre qu'une enquête minutieuse soit réalisée pour déterminer d'abord les auteurs de ces faits-là, parce que nous devons savoir qui a évidemment favorisé la tentative d'évasion.
Oui, mais monsieur Yves, en même temps aussi, mais attendez, les femmes là qui ont été violées, on ne sait pas dans quel état elles sont, et puis peut-être elles ont connu des déchirures et autres, donc on ne doit pas attendre les enquêtes, et il faut déjà qu'il y ait une première assistance.
Moment, si nous parlons des enquêtes, c'est parce que vous parlez de la responsabilité. Vous comprenez qu'il faut être engagé, la réparation du préjudice, etc. Donc il faudra d'abord savoir qui sont les auteurs, et qui sont les responsables, et qui avaient été à la base de cette tentative d'évasion. Bon, pour ce qui concerne l'état des victimes, je crois que l'État comme telle, devrait d'abord prendre des mesures qu'il faut considérer comme étant des mesures provisoires, des mesures conservatoires, pour leur allouer certains moyens, pour que finalement elles se fassent soigner, etc. Nous déplorons ce genre de comportement, nous ne pouvons pas être d'accord avec ça. Mais lorsqu'on parle déjà de la responsabilité, je crois qu'il y a une certaine situation. On devrait attendre que l'enquête soit diligentée, que l'on détermine les auteurs, et que les responsabilités dans ces cas-là puissent être déterminées en saisissant les juges qui devra se prononcer sur ce genre de questions. Bon, maintenant, parler directement de la responsabilité de l'État, moi je crois que nos amis devraient avoir un peu de patience et nous aider à ce que nous puissions avoir une enquête bien bien faite et que...
Oui, maître Patrick, mais en même temps, on sait que les enquêtes ont tendance à s'éterniser, à durer trop longtemps ici, hein, on le sait en même temps.
Mais s'il vous plaît, là, bon, je crois qu'il y a des ONG là, ceux qui sont invités là sont des ONG de grande renommée qui ont travaillé dans ce pays depuis trop longtemps. Ils peuvent aussi avoir leur enquête parallèle.
Oui.
Ils peuvent mener aussi leurs propres enquêtes. On n'a pas interdit à quelqu'un de réaliser une enquête. Donc je crois que ces ONG là, vous parlez de la fondation Bill Clinton, c'est une fondation qui a ses sièges aux États-Unis là-bas, ils ont suffisamment de moyens qu'ils peuvent mobiliser pour qu'une enquête soit menée et nous déterminer les auteurs, identifier les auteurs et puis retracer et comment est-ce que les événements ont eu lieu avant de parler de la responsabilité parce que c'est de cette façon qu'on devrait procéder. Moi, je pense que c'est ça. Il y a une certaine situation dans leur chef. Je leur demande un peu de patience. Pour que finalement les Congolais soient mieux informés. Je crois que
merci
ça.
Beaucoup, Monsieur Patrick. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Maître Jean-Claude Katende, nous rappelons que vous êtes président de la ZADO. Comment répondez-vous à la préoccupation d'Ismaël Mumpoi qui dit que la difficulté à ce stade, c'est celle d'identifier les auteurs de ces viols qui s'est passé au pavillon 9 de la prison centrale de Makala? Maître Jean-Claude?
Vous m'entendez?
Exactement, nous vous recevons. Allez-y.
Oui, je disais que j'ai pris note de plusieurs préoccupations qui ont été soulevées par les intervenants de tout à l'heure. Et je voudrais toucher aux unes et aux autres.
D'accord.
Je commence par le dernier intervenant qui parle des enquêtes parallèles. C'est vrai que les ONG ont la possibilité de mener des enquêtes parallèles. C'est facile à dire, mais dans la pratique, ce n'est pas facile à faire. Dans le sens que quand l'incident a eu lieu, les autorités gouvernementales ont refusé tout accès à la prison aux personnes étrangères, c'est-à-dire qui ne sont pas, qui ne travaillent pas à la prison, qui ne sont pas prisonniers, qui ne sont pas prisonnières. Dans ces conditions-là, les ONG n'ont pas accès aux fonctionnaires qui sont à la prison, n'ont pas accès
au site,
ni aux autres prisonniers. Comment on fait les enquêtes? Il faut que l'État soit ouvert. Il faut que les autorités gouvernementales soient ouvertes pour laisser cette possibilité aux ONG. Quand vous parlez de la responsabilité, nous avons demandé que dans la commission qui était mise en place, que les organisations des droits de l'homme y soient insérées. La première réponse du gouvernement était non. Et ils ont demandé à ce que les ONG mènent leur propre enquête, mais les portes de la prison n'étaient pas ouvertes aux ONG. Comment voulez-vous qu'on fasse des enquêtes sérieuses si on n'a pas accès aux sources à la prison?
Ça, c'est compliqué.
Donc, c'est compliqué. Maintenant, quand vous parlez d'être patient et d'attendre le rapport des enquêtes du gouvernement. Je suis bien d'accord. Mais quand déjà le gouvernement a des positions contradictoires sur les enquêtes, vous allez vous rappeler que le vice-ministre de la Justice avait parlé de 2 morts. Il a menti publiquement au peuple congolais et aucune sanction n'a jamais été prise contre lui. Il a fallu attendre que le ministre de l'Intérieur initie une commission pour qu'on arrive à 129 morts et aujourd'hui on est à 130 et plus de morts. Donc la contradiction entre les mêmes membres du gouvernement n'inspire pas confiance. C'est pour ça que nous avions demandé une enquête indépendante. Et quand l'enquête est déjà biaisée de cette façon-là, il est clair aussi que les responsabilités sont biaisées. Vous dites que l'État est victime. L'État est victime de quoi? Parce que l'État est censé protéger, prendre des mesures qu'il faut pour maintenir la prison dans l'état de sécurité. C'est pour ça que l'État a déployé les personnels de l'ANR là-bas. C'est pour que, sur le plan sécuritaire, qu'on ait des informations qu'il faut pour protéger la prison et protéger les prisonniers.
Exactement.
Donc, l'État a failli à sa propre mission d'assurer la protection des personnes que
ils sont détenus à la prison.
Décidé de mettre en prison. Il y a un autre auditeur qui est revenu sur les viols en disant que il y a eu la volonté des femmes. Mais enfin, il faut quand même avoir de l'humanisme. Dans ces conditions-là, quelle femme prendrait plaisir à pouvoir s'accoupler avec un homme? Au moment où on tire à gauche, on tire à droite. Au moment où il y a la débandade dans la prison, quelle femme accepterait de faire l'amour avec un homme dans ces conditions-là?
Oui, mais Monsieur Jean-Claude, il est dit parce que c'était une tentative d'évasion, mais comment est-ce que quelqu'un est détenu qui compte s'évader et puis il va penser à s'accoupler brutalement avec le détenu? Donc c'est un peu complexe la situation.
Oui, c'est complexe, mais il faut le comprendre. C'est pas la première fois que les femmes sont violées dans une prison. Vous savez que même quand il y a tentative d'évasion, ce ne sont pas tous les prisonniers qui sont impliqués.
Non.
Pensez-vous vraiment que on peut impliquer 14 000 personnes dans l'évasion?
Non, non.
Donc, il y a un groupe qui peut être au courant, mais les autres ne sont pas au courant. Quand ils entendent des bruits à gauche, à droite, ils peuvent penser que c'est un désordre juste dans la prison et ils peuvent aller s'adonner à poursuivre les femmes qu'ils ont toujours vues et peut-être sur lesquelles ils avaient des idées. Parce que ces femmes témoignent qu'elles ont été violées. Pourquoi nous allons mettre leur témoignage?
Je vais mettre en question le témoignage. Non, non, c'est pas juste.
Monsieur Emmanuel Kohl a dit tout à l'heure qu'il y a des femmes qui sont mortes à la suite de violences sexuelles. Et vous pensez qu'une femme qui a consenti à un acte sexuel peut se retrouver dans ces conditions-là?
Non.
C'est pour ça que nous pensons qu'il est important que les enquêtes soient menées, que ces femmes, d'abord, la priorité aujourd'hui, c'est leur prise en charge. Ça, c'est une priorité. L'examen du dossier par la justice est une bonne chose. Les gens vont être condamnés, mais il ne faut pas que ces femmes qu'on pouvait sauver soient condamnées à vie à cause de certaines maladies sexuellement transmissibles, dont les VIH/SIDA. Alors, il y a un auditeur qui demandait, mais dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'un autre auditeur a proposé des solutions auxquelles j'ai pensé aussi. Compte tenu du fait que ces genres d'incidents sont déjà arrivés non seulement à la prison de Makala, mais aussi à Lubumbashi et ailleurs, pourquoi on ne construirait pas une prison affectée directement aux femmes, mais aussi aux enfants? Voyez-vous, parce que nous disons que la prison a pour mission aussi de rééduquer la personne, pour qu'au sortir de la prison, que la personne soit à même d'être utile à la société. Or, dans les foisonnements qu'il y a à la prison des Makala, c'est difficile de pouvoir socialiser les gens.
Donc, en réalité, M. Jean-Claude, la prison ne remplit pas son rôle, au fait, dans l'état actuel.
Non, mais la prison du Congo ne remplit pas son rôle. Vous avez appris que M. Nelson Mandela a continué à faire ses études en droit
en détention
à la prison. À la prison. Est-ce que ces possibilités sont données aujourd'hui aux prisonniers qui sont là?
Non.
Quand vous allez en prison, vous êtes condamné à mort. vous êtes condamné à mort. Et il y a des gens qui sont morts, dans la prison là-bas, sans avoir été jugés.
Nous vous gardons en ligne, Président, Monsieur Emmanuel, Ismaël Mumpoi a soulevé un souci. Il dit la difficulté serait aussi celle d'identifier les auteurs de ces viols au niveau de Pavillon 9 et de Makala.
Bon, écoutez, j'ai suivi l'intervenant et surtout l'avocat qui était venu la dernière fois. Mais je regrette qu'un avocat peut avoir l'impression telle qu'il vient de dire. Le problème qui est là, c'est quoi? C'est-à-dire, je profite pour remercier à Monisco qui a pris à réhabiliter plusieurs à la maison d'aller dans la province. Parce que l'État dispose 148 prisons à laquelle 27 non opérationnels et 121 qui est opérationnel. D'État a 34 à la maison guérison militaire et 2 prisons militaires. Mais 2 prisons militaires, depuis que Afdel, Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui avait réhabilité le pavillon de Makala, était vidé, il avait réhabilité. Mais après Laurent Désiré Kabila jusqu'à nos jours, c'était le président Fachi qui aussi est en train de réhabiliter certains pavillons, mais ce n'était pas fini. Maintenant, à l'intérieur, c'est Monisco qui a en train de réhabiliter certaines prisons et tout. Donc, comme on vient de dire, l'État ne dispose pas les prisons qui remplissent les normes internationales. Toutes les prisons sont dans un état délabrement avancé. C'est la raison dans laquelle vous sentez qu'il y a l'évasion dans tout le province. Parce que l'évasion, on parle souvent à Kinshasa, mais dans tout le province, ici, là, Badundu, et partout, là, il y a l'évasion tous les jours. Donc, maintenant, là, on y vient sur les femmes qui est violée. Comment vous voyez-vous que, en 2017, il y avait plusieurs de gens qui étaient évadés, mais il n'y en a pas aucune femme qui était violée? Et nous regrettons aussi que, en 2017, il y avait seulement une seule femme qui était restée au pavillon 9. C'était une femme folle, qui ne savait pas où partir, et cette femme-là qui était restée au pavillon 9, et lorsqu'on est arrivé et on a fait l'enquête, on a trouvé cette femme-là, et nous avons posé la question, bon, comme c'est un folle, il ne peut pas nous donner même l'information fiable.
Là où il y a c'est sa famille et autres, oui.
Autrement. Donc, les prisons des femmes étaient commencées à remplir à partir de 2017. Vous voyez, donc, les problèmes aussi, comme à certains magistrats, qui prennent les prisons comme les commerces pour avoir l'argent. C'est comme je viens de vous dire le cas de maman Esther Nongo. Maman Esther Nongo,
on est encore en détention.
Il est encore en détention depuis 2022. Et ne passe encore jugé par le parquet de Limba. Vous voyez, donc nous avons le cas séminaire. Vous voyez, nous avons l'avocate, comment on appelle, Bambingua Rodi, qui était aussi arrêté pour avoir défendu son client auprès d'un magistrat de cassation. Et son client a fait un contrat en bonne forme avec cet magistrat de cassation, mais on finit. Et il a donné un montant, il voulait que son montant soit restitué. Le monsieur a dit, tu dois attendre pour que je récupère l'argent pour vous rembourser votre argent. Il est en train de menacer le monsieur et le monsieur a pris fuite. En pris fuite, il prend l'avocat, soit disant, c'est lui qui a présenté le monsieur, alors que l'infraction est individuelle, comme c'est un magistrat, il a tué en France, et voilà, cet avocat aussi permet des gens là, qui sont toujours en prison. Même lorsque le premier vice de ministre, c'est un moment qui nous a apprécié beaucoup, il avait même raconté cette femme-là, il avait promis qu'il va l'aider pour sortir, mais hélas. Donc, pour vous dire qu'il y avait le viol, bien qu'il y avait le bar ici et là, mais il y avait les viols. Parce que s'il n'y a pas eu les viols, on ne doit pas condamner, on ne doit pas juger les certains prisonniers. Maintenant, on juge pour gagner quoi? Déjà, ils sont les prisonniers. ils sont les prisonniers, il y a certains des gens qui sont condamnés, même si certains des gens sont prévenus, mais vous condamnez un prisonnier, l'État va gagner quoi? C'est-à-dire, l'État a foyé de sa mission, l'État n'a pas respecté l'article 7 de la Constitution,
et c'est l'État qui est responsable de l'incident qui est arrivé.
L'État a le droit de respecter. Voilà, c'est ça. Donc, responsabilité est comme un État congolais.
On retourne au standard pour donner la parole à M. Paul Balala, qui est à Kananga. M. Paul, bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Malala Ntamboponi n'est pas à Kananga.
Vous êtes dans quelle ville?
La deuxième fois que je vous demande de rectifier, moi je suis à Kinshasa.
D'accord, c'est noté. Allez-y.
Permettez, monsieur le journaliste, que je puisse m'inscrire en faux cette fois-ci. Je sais que j'interviens à tout moment au plateau là-bas. Monsieur Emmanuel Colin, qui est en train de parler là au plateau. Moi, je voudrais qu'au cours de cette émission, ou au cours de la prochaine émission, vous puissiez faire participer les chevronnés de la psychologie pour ne pas rester sur la psychologie de l'homme. Au niveau de la prison de Makital, il y a une tentative d'évasion. Vous le savez vous-même, quand il y a tentative d'évasion, il y a eu des balles qui crépitaient là-bas. Lorsque les balles étaient en train de crépiter, quelle était l'intention de chaque prisonnier? C'est supposé que chaque prisonnier était sous émotion, monsieur le journaliste. Un prisonnier qui totalise 2 ans en prison, 2 ans, et les autres dont les instructions sont en cours, et il savait qu'il devait passer beaucoup de temps là-bas, beaucoup d'années là-bas. Et aujourd'hui, un grand matin ou une nuit, il trouve l'occasion de voir les portes s'ouvrir de soi. Monsieur le juge, les portes sont ouvertes. Quelle peut être d'abord la première réaction de ces prisonniers-là? C'est chercher la voie par laquelle il peut aussi s'enfuir pour échapper à ces 2 ans, 5 ans, 3 ans lui infligés par la justice. Et maintenant, sous les coups des balles qui crépitaient, chacun était sous émotion. On peut violer, je ne sais pas si M. Emmanuel est en train de parler des viols ou de la violence. S'il parlait de la violence, oui, ça va, là je peux être d'accord. Mais parler de viol, dans quelles conditions? Parce que la femme dont vous voulez violer, elle est elle aussi sous émotion, parce qu'elle veut fuir. Il y a des balles qui sont en train de retentir. Vous la violez d'abord, c'est quoi? C'est quoi l'action d'abord de violer une femme? Et vous la prenez pour combien de minutes? Pour combien de temps? Vous allez violer une femme qui est sous émotion et qui cherche la voie par laquelle elle peut aussi
s'évader. Monsieur Balala, s'il vous plaît, les premières informations ont confirmé que les femmes ont été victimes de viol. Il ne faut pas remettre en question cette nouvelle qui a été relayée même dans la presse, et même par les pouvoirs publics.
Ah bon? Ok, voilà. Par les pouvoirs publics. Disons aujourd'hui que c'est l'État congolais qui a violé. Parce que l'État congolais est doté de tous les moyens possibles, les moyens de communication, les moyens de défense à ces agents qui sont là-bas. C'est supposé que la prison de Makala a toujours été sécurisée. Si vous y allez, il y a des militaires qui sont au-dessus, là-bas, qui ont la possibilité de voir même à 50 ou à 100 mètres de la prison.
Oui.
Alentours là-bas.
Oui,
mais aujourd'hui, comment ça fait-il que...
Allez droit au but, s'il vous plaît. Le temps s'égrène vite. Hein. Allez, allez droit au but, s'il vous plaît.
Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Comment ça fait que cette prison qui est sécurisée par 2 militaires et par la police donne aujourd'hui la voie aux violeurs d'accéder au niveau de la prison? Je ne sais pas si les violeurs sont venus de l'extérieur ou ils étaient là à l'intérieur. Et ils se sont mis à violer les femmes, les femmes d'autrui, les femmes responsables qui étaient là-bas. D'une part, la responsabilité revient à l'État congolais de pouvoir endosser les responsabilités et prendre en charge ces femmes-là, leur prendre en charge totalement, parce qu'elle a le pouvoir de sécuriser toutes ces personnes-là qui étaient en prison et même leurs biens qui étaient là-bas.
Merci beaucoup, merci beaucoup, M. Jean-Paul. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous avez pris la parole. Maître Jean-Claude Katende, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous réclamez que l'on puisse vous impliquer dans les enquêtes qui sont en cours.
En conclusion, il faut dire que les incidents qui sont arrivés à la prison sont très graves, du moment où il y a eu violation des droits humains. nous suggérons que les femmes qui ont été victimes des viols soient prises en charge de manière holistique et que les enquêtes se poursuivent pour arriver à établir des responsabilités. Mais nous voulons que ces enquêtes soient indépendantes et qu'elles ne soient pas menées pas seulement par les institutions publiques qui ont montré une certaine contradiction, mais qu'on puisse associer des ONG et d'autres institutions qui puissent assurer que les enquêtes vont être faites de manière transparente et vont prendre en compte tous les aspects de la question.
Merci d'avoir été avec nous, Maître Jean-Claude Katende, dans ces rendez-vous d'Okapi Service. Nous rappelons que vous êtes président de l'AZADO. Excellente journée. Monsieur Emmanuel Collet, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir les revendications de la Fondation Bill Clinton?
Écoutez, comme nous avons l'habitude de dire, les femmes, les premières choses, elles sont traumatisées. Il faut chercher à libérer les femmes en question, sauf les femmes qui se présentent comme un élément dangereux. Donc, il doit être d'abord libéré, et pour qu'il va à la maison, pour que l'État commence à suivre leur état de santé. Et en plus, il faut aussi poursuivre les magistrats, certains magistrats qui sont auteurs de détentions illégales, qui ont fait en sorte que beaucoup de femmes s'étaient victimes. En plus, il faudra que les femmes soient sécurisées. Et en plus, parce que on jugeait cette prisonnière.
On est coincé par les tombes, monsieur Emmanuel.
Oui. Donc, nous demandons à l'État de prendre en charge de la femme qui était violée et l'agrément, soit disons qu'il est difficile pour violer la femme, c'est un agrément qui ne met pas debout. Les femmes étaient violées, l'État doit prendre responsabilité pour les
Merci soigner. Beaucoup, monsieur Emmanuel Collet. Nous rappelons que vous êtes président de la Fondation Bill Clinton. Excellente journée.
Merci.